de la belle grande visite. Comme à tous les mois, on est toujours content de l'accueillir pour la chronique de psychologie sociale. Roxane de la Sablonnière, PhD, professeure titulaire au département de psychologie de l'Université de Montréal, directrice du laboratoire sur les changements sociaux, l'adaptation et le bien-être. Bonjour Roxane.
Bonjour Hélène.
Vous êtes accompagnée de Nikita aujourd'hui qui est à l'écoute et qu'on salue très très fort. La prochaine fois, on l'invitera en studio.
Ben oui, on l'invitera. Prochaine fois.
Alors aujourd'hui, la grande question, Roxane, l'estime de soi est-elle vraiment individuelle?
Oui, ben j'ai pensé que ça pourrait être une question intéressante à poser et j'ai préparé cette chronique avec Amina Benkenouf, Alexia Hull, Enzo Langeli, qui sont des étudiants au baccalauréat à l'Université de Montréal, et aussi en collaboration avec Marie-Josée Delisle et René Wimel du Mouvement Santé mentale Québec. La chronique a été inspirée d'une situation qui s'est produite dans un de mes cours, justement avec mes étudiants.
Ah oui?
Puis, comme professeur, on se pose toujours des questions. Donc, j'ai eu une discussion avec le groupe sur l'évolution de leur sentiment de confiance en soi depuis qu'ils se sont joints à notre équipe. Donc, il y a environ un an. Mm-hmm. Puis, en écoutant leurs réponses, j'ai réalisé que mes étudiants percevaient qu'ils avaient une meilleure estime de soi puis une plus grande confiance en leur capacité qu'en début d'année. Donc, le groupe mentionnait entre autres que la collaboration avec les autres étudiants, avec les membres de l'équipe, avait créé une atmosphère qui était sécuritaire, qui favorisait leurs apprentissages puis le développement de leur confiance de soi. Puis, cette discussion, en fait, avec ces étudiants a fait écho à mon rôle en tant qu'ambassadrice du Mouvement Santé mentale Québec.
Ambassadrice du Mouvement Santé mentale Québec.
Et on se sent importante, là.
Félicitations, vous l'êtes aussi. Mais est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cet organisme?
Oui, bien, c'est un regroupement québécois d'organismes communautaires. La mission, c'est de faire la promotion d'une santé mentale positive au sein de la population générale. Avoir une bonne santé mentale, c'est un concept qui peut paraître un peu flou, hein? On entend beaucoup parler, mais c'est quoi exactement? C'est un peu comme avoir une bonne santé physique, mais sur le plan psychologique. Donc, une personne qui a une bonne santé mentale va être prête à affronter des situations plus stressantes, puis aussi à déployer certaines habiletés pour atteindre son plein potentiel. La santé mentale peut aussi affecter toutes les dimensions de notre vie, comme la sphère familiale, professionnelle, sociale. Puis comme la santé physique, la santé mentale peut varier aussi dans le temps en fonction de nos expériences de vie. C'est normal d'aller moins bien parfois. Des fois, physiquement, on est malade, on a une grippe, on a une maladie, on a mal dans le dos, on a mal aux genoux. Et c'est un peu la même chose avec la santé mentale. Parfois, on peut être triste, on peut avoir envie de se cacher sous les couvertures si on vit une rupture, par exemple. Donc, ça varie dans le temps. Ces deux notions sont aussi très liées les unes envers les autres parce que souvent, quand on a une bonne santé mentale, on va avoir une bonne santé physique aussi. Mais ce qu'il y a à retenir, c'est que ça varie puis ça peut être positif aussi.
Un esprit sain dans un corps sain.
Oui, si on veut. Puis l'objectif du Mouvement Santé mentale Québec, c'est de rassembler, en fait, les Québécois autour d'un objectif commun qui est de développer une santé mentale positive puis d'outiller la population pour qu'elle ait les capacités d'entretenir sa santé mentale et aussi de l'améliorer. Donc, mon rôle, c'est de consultation pour s'assurer que les outils développés se basent sur des données probantes. Puis moi, plus spécifiquement, je me concentre sur les questions identitaires, les multiples aspects liés à l'identité, le concept de soi, puis l'estime de soi en fait partie aussi.
On compte donc sur votre expertise.
un petit peu. Récemment, le mouvement a partagé sa nouvelle campagne de sensibilisation 2024-25 qui s'intitule « S'accepter, c'est être soi-même ensemble ». J'adore.
S'accepter, c'est être soi-même ensemble. OK.
C'est brillant. Ça a été lancé le 13 mars lors de la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. Puis toutes les présentations qui ont été faites cette journée-là là, sont sur YouTube, sont disponibles sur le site web du mouvement. Puis en terminant cette partie, un sondage léger récent indique que 74% des Québécois estiment être en bonne santé mentale. Puis la plupart affirment avoir une assez bonne estime de soi. Donc, c'est important de continuer à pratiquer et à cultiver des pratiques positives associées à la santé mentale.
Oui. Et Roxane, vous avez mentionné que la campagne met l'accent sur le verbe accepter, s'accepter. Qu'est-ce que vous entendez exactement par là?
Bien, il s'agit par exemple, de se reconnaître à sa juste valeur et de s'aimer pour qui on est. Il y aurait 4 grands piliers. Puis souvent, on parle d'estime de soi. Il y a beaucoup de termes, hein? L'estime de soi, la confiance en soi, le sentiment de compétence. Mais en gros, il y aurait 4 grands piliers. Le premier, c'est le sentiment de confiance. Ça émerge une fois qu'on se sent en sécurité puis que nos besoins sont satisfaits. C'est dur d'avoir confiance quand on a faim ou quand on ne se sent pas bien. Donc, puis, ça nous donne notre carburant pour oser, pour expérimenter, pour apprendre, pour développer son autonomie.
Alors, c'est fondamental, hein?
C'est fondamental. Ouais. Puis, on le voit chez les petits. S'ils ne se nourrissent pas bien, qu'ils ne déjeunent pas, bien, ça devient plus difficile ensuite de développer un sentiment de confiance à l'école. Le sentiment de compétence, bien, c'est d'avoir une certaine certitude qu'on possède les aptitudes nécessaires pour réussir.
Et pour avoir ce sentiment-là, il faut avoir le sentiment de confiance.
Oui, exactement. Ensuite, bien, il y a la connaissance de soi. Ça veut dire bien se connaître. Être capable d'identifier ses valeurs, ses besoins, ses habiletés, ses préférences. C'est comme d'avoir une certaine clarté identitaire,
on
peut dire.
Tout un défi.
Ouais. Surtout à l'adolescence, parce que là, on se pose beaucoup de questions, etc. Puis finalement, il y a le sentiment d'appartenance, qui lui est plus collectif. Ça veut dire d'appartenir à une communauté, à sa profession, à un groupe sportif, à son école. De sentir qu'on a des caractéristiques qu'on partage avec des membres d'un groupe auquel on appartient.
Qu'il y a une sorte de complicité.
Oui, qu'il y a une complicité, puis aussi une solidarité, puis, de se sentir soutenu par nos collègues, par nos amis, par les gens des groupes auxquels on appartient lors de moments plus difficiles.
Et lors de moments aussi de joie, j'imagine.
Tout à fait.
C'est bien quand les collègues ou la famille partagent notre bonheur, bonne nouvelle.
Oui, parce que ça fait référence à la reconnaissance. Quand on se sent reconnu, si on vit un succès important puis que ça passe comme ça dans le bar, ben on se sent un peu bizarre.
Hein? Oui, c'est vrai que les autres, c'est important. Ça peut être l'enfer aussi, les autres. Alors, quels seraient les bénéfices d'une bonne estime de soi?
Bien, évidemment, il y a plusieurs bénéfices. Les études le montrent, là. Par dizaines. Donc, on peut parler, par exemple, du point de vue relationnel. C'est démontré que une meilleure estime de soi, amène de meilleures relations amicales, familiales, amoureuses, parce que ça nous permet de développer une plus grande confiance en nos proches. Ça renforce de façon saine les liens qu'on partage avec eux. Donc, c'est un peu un synonyme d'affirmation dans nos relations. Puis ça permet d'exprimer avec confiance nos forces, nos capacités, nos limites, nos besoins aussi de manière claire. Sur le plan professionnel et scolaire, une bonne estime de soi peut aussi constituer un facteur de protection face aux défis. Donc, si on est confiant en nos capacités, on est capable de remplir avec succès les différentes demandes qu'on a de nos professeurs, de nos enseignants, de nos supérieurs aussi, puis à redoubler d'efforts et à persévérer si on a des échecs ou bien si on vit des difficultés plus importantes.
Alors, c'est important d'avoir une bonne estime de soi. Est-ce que, une question comme ça, peut-être pas rapport, là, mais quand on dit cette personne-là a trop d'estime d'elle-même, est-ce qu'il y a de l'exagération qui peut nous nuire?
C'est une excellente question, Hélène. Si on a extrêmement trop d'estime de soi, oui, il peut y avoir des effets plus négatifs.
Ouais.
On parle parfois que ça peut être lié au narcissisme. C'est comme si on a trop peu d'estime de soi.
Finalement.
Fois, ça peut être lié des fois à la dépression, des sentiments plus dépressifs aussi. Donc, mais de manière générale, l'estime de soi, quand on en a à une bonne dose, puis à une dose quand même assez importante, ça l'a plusieurs conséquences importantes
positives.
Ouais.
C'est plutôt sain.
Oui, c'est plutôt sain.
Et Roxane, quels seraient les facteurs qui peuvent avoir une influence sur le développement d'une bonne acceptation de soi? Acceptation de soi, on peut dire aussi estime de soi?
Oui, c'est ça. C'est beaucoup de synonymes. On pourrait débattre des mots et tout ça, mais en gros, ça veut dire qu'on se sent bien avec soi-même. Ce que je veux amener ici, c'est que pour répondre à sa question, il faut se pencher en détail sur des études qui ont été menées à ce sujet. Il y a un chercheur qui s'appelle Roy Baumeister de l'Université d'État de Floride qui a été spécialisé dans ce domaine. Puis, il amène l'idée que l'aspect collectif est hyper important dans le développement de l'estime de soi qui est plus personnel ou individuel. Parce que l'idée, c'est que... Puis, il y a d'autres chercheurs aussi là, qui ont émis ces idées. Donc, si je connais les caractéristiques de mon groupe, puis que c'est clair, bien, je peux mieux me situer moi personnellement, connaître ma propre valeur par rapport au groupe ou par rapport aux autres membres de ce groupe-là. Donc, si une personne, par exemple, considère que les Québécois sont créatifs, donc elle appartient au groupe des Québécois, on pense qu'ils sont créatifs, mais moi, je peux décider, oui, je suis assez créative, mais j'ai telle autre force, ou donc savoir où je suis, puis avoir une certaine clarté identitaire qui est très importante. Donc, l'identité, ce sont nos caractéristiques qu'on a, puis les caractéristiques qu'on partage avec notre groupe. Puis l'estime de soi, c'est souvent une valeur qu'on attribue à ces caractéristiques. Donc, si je reconnais que j'ai ces caractéristiques-là et que j'en suis fière, bien, c'est ça, en fait, l'estime de soi. Mm-hmm. Donc, selon les sondages qui ont été réalisés avec le mouvement Santé mentale Québec, il apparaît que des éléments qui ont une forte influence sur l'estime de soi ou un fort lien, ce sont les relations amicales, le climat familial, le niveau scolaire ou encore le statut socio-économique. Donc, de toutes ces composantes, souvent, ce qui est commun, c'est le regard des autres, que les autres peuvent avoir sur une personne ou, si on peut dire, un genre d'étiquette qui soit positif ou négatif. Ouais. Donc, si c'est plus négatif, l'étiquette qu'on a sur les membres d'un autre groupe ou des gens autour de nous, bien, ça peut être plus difficile pour les gens. Donc, exemple, si un enfant vient d'une famille extrêmement favorisée, donc ça va peut-être être plus... Il va peut-être faire face à moins de jugement de la part des autres, puis ça va être plus facile de développer sa confiance en soi, son estime de soi. Donc, les étiquettes qu'on va accoler aux gens autour de nous, ça peut influencer leur estime de soi. parce qu'ils peuvent faire une genre d'auto-stigmatisation. On en a déjà parlé dans des chroniques précédentes. Mm-hmm. Donc, s'attribuer ces caractéristiques négatives. Puis on peut prendre l'exemple des immigrants ou immigrantes qui arrivent ici au Québec, puis pour lesquels c'est très difficile d'obtenir un emploi ou un logement, hein, puis qui se font refuser.
Font face à plein de...
Oui. Oui,
de jugement, de préjugés.
De jugement, de discrimination. Oui. Parfois, c'est des micro-agressions. « Ah, oh, tu viens d'où? Ah, oh, mais je suis née ici. Ah oh, non, mais tu viens d'où pour vrai? T'es pas vraiment Québécois. » Donc, ils se font... Tu sais, ça peut être très, très difficile. Puis les gens peuvent venir à internaliser aussi ça. Puis ça peut impacter négativement.
Internaliser.
S'approprier.
OK. L'intégrer.
Oui, l'intégrer.
Ouais, le tenir pour acquis.
Exactement. Okay. Même si c'est les autres qui ont ce regard sur eux, ben, ils peuvent aussi avoir...
On finit par le croire.
Oui, oui.
Ouais.
Ouais.
Ouais. Là, ça devient malsain.
Oui, ça peut être très malsain, oui.
Alors, pour conclure ce segment, comment chaque individu peut-il faire sa part pour favoriser l'estime de soi des membres de sa communauté? Une fois qu'on a une bonne estime de soi, comment on fait pour améliorer l'estime de soi de son vis-à-vis?
Bien, on peut peut-être même essayer si on n'a pas une bonne estime de soi. Pourquoi pas?
Ah oui, ça se fait? Ben, ça pourrait se faire?
J'imagine que oui. Ouais. Dans le fond, c'est peut-être de regarder autour de nous. Est-ce qu'on peut reconnaître les forces des gens qui nous entourent? Les gens qu'on pourrait juger au premier regard, ça serait quoi leur force? Ah, moi, je pourrais dire, mais Hélène, c'est une excellente animatrice à la radio.
Merci beaucoup.
Oui, puis je pourrais peut-être lui
c'est
dire...
C'est bon pour mon estime de soi.
Je pourrais peut-être lui dire, reconnaître ses efforts, reconnaître tout ce qu'elle fait. Il y a aussi faire preuve d'ouverture par rapport aux autres, des gens qui sont différents.
D'écoute.
Oui, de l'écoute. J'attirerais l'attention sur les médias sociaux, de faire attention de ne pas poser des étiquettes qui peuvent être rapides et parfois sans réflexion, qui peuvent vraiment heurter les gens, même si on a l'impression qu'on heurte pas les gens autour de nous parce que c'est par écrit, mais ça peut faire beaucoup de mal aussi.
Tourner sa langue cette fois avant de parler, mais comment on pourrait dire, on pourrait l'appliquer aussi.
On pourrait développer
une
expression pour les doigts.
Oui, oui.
Puis en terminant, Hélène, ce que j'aimerais dire, c'est que ce qu'il faut retenir sur l'estime de soi puis la santé mentale positive aussi, c'est que ça se construit dans le temps, dans la vie. Et à certains moments, on peut douter de nous-mêmes, sentir qu'on est moins bon, qu'on a des moins bonnes capacités, mais à d'autres moments, on va se sentir mieux puis on va être plus en mesure d'être bien. Donc, c'est d'accepter qu'il y a des variations dans le temps aussi de notre santé mentale. Puis, j'aimerais terminer en disant qu'il y a beaucoup d'outils qui sont disponibles. Par exemple, le mouvement Santé mentale Québec a développé un jeu qui permet aux adolescents, aux adolescentes de comprendre leurs forces avec des cartes, etc. Ils ont développé aussi des fiches autoréflexives pour les milieux de travail, voir si on se sent reconnu ou non dans notre milieu de travail. Donc, ça pourrait être des outils intéressants de réflexion pour s'accepter.
Et est-ce qu'il y a un site Internet? J'imagine que oui.
Oui, il y a un site Internet, ouais. Là, Mouvement Parfait. Santé mentale Québec.
Bien, Roxane de la Sablonnière, PhD, professeure titulaire au département de psychologie de l'Université de Montréal, directrice du laboratoire sur les changements sociaux, l'adaptation et le bien-être, et maintenant ambassadrice du Mouvement santé mentale Québec. Un grand merci. Alors, l'estime de soi est-elle vraiment individuelle? On pourrait répondre pas tant.
Pas tant, non.
Merci, Roxane.
Merci, au revoir.
Au plaisir.